Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le rassemblement baptisé Convention de la droite, qui s'est déroulé à la Palmeraie le 28 septembre dernier et qui a surtout réuni les partisans de Marion Maréchal Le Pen, voulait s'inscrire dans l'ère du temps qui est commencé au populisme. Il a fait couler beaucoup d'encre, surtout du fait de la présence d'Éric Zemmour. L'épaule tordue par la tension, arrimée à son pupitre, Zemmour n'a pourtant pas dit grand-chose de neuf, ni spécialement brillé par ses talents d'orateur, mais la presse, et la presse de gauche incluse, avait manifestement décidé de lui assurer une publicité de scandale, ce qui a permis une diffusion majeure non seulement de la parole de Zemmour, mais de la Convention elle-même et de ses actions populistes. Cela a contribué à marginaliser, ce qui a peut-être été la seule vraie nouveauté ce jour-là, l'invitation lancée par les organisateurs à un contradicteur, en l'occurrence Raphaël Enthoven, venu pour déconstruire l'événement comme il l'a d'emblée annoncé. Contrairement à ce qu'il s'imagine, les populistes sont destinés à perdre, a-t-il développé. Comme il est assez rare qu'un philosophe choisisse de venir ainsi s'exposer et exposer ses arguments chez ceux qu'il considère comme ses ennemis et qui le lui rendent bien, c'est à ce geste que nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui. Fallait-il ou non y aller? Est-il le mieux placé pour déconstruire la narration dite populiste? Et où en est d'ailleurs cette narration aujourd'hui? Pour en parler, le premier concerné, Raphaël Enthoven, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes philosophe, comme on sait, professeur de philosophie et écrivain. Vous avez publié Les Morales Provisoires en début d'année et vous sortez dans 3 semaines une bande dessinée autour de Platon, d'après l'œuvre de Platon.
Oui, Le Banquet en bande dessinée avec Coco.
Avec Coco.
De Charlie Hebdo, oui.
Voilà, à la plume. Et Alexandre Devecchio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux pages Opinion et Débat du Figaro. Vous êtes en charge du Figaro Vox. Et vous avez pu vous sortir cet automne Recomposition, le nouveau monde populiste. Un livre qui veut faire le point sur ce qui se passe depuis 2014-2015. Vous annoncez, vous, une nouvelle ère. Enfin, en tout cas, une possible nouvelle ère. Là où Raphaël Enthoven a annoncé, quant à lui... à la convention de la droite, un mouvement qui va dans le mur. Alors, Raphaël Enthoven, d'abord, première question, est-ce qu'il fallait y aller ?
Il fallait y aller. Je n'en étais pas convaincu avant. C'est-à-dire que j'avais dit oui dans le doute. Et il m'avait semblé, quand je préparais ce texte, que c'est le texte lui-même qui serait le juge de paix. Et qui me dirait si j'avais raison ou non d'y aller. Et les réactions à cette intervention m'ont conforté dans le sentiment que c'était ça qu'il fallait faire, que la logique d'opposition systématique aux idées d'extrême droite, plus que le populisme, c'était vraiment l'extrême droite, aux idées d'extrême droite, la logique d'opposition systématique dans laquelle moi j'ai été élevé, dans laquelle j'ai baigné toute mon enfance et qui m'a valu d'ailleurs des récriminations quand j'ai annoncé ma participation à cette convention de la part d'amis. Cette logique-là a fait depuis longtemps, je crois, montrer ses limites. Il faut lui substituer, me semble-t-il, une logique contradictoire, une logique de débat, une logique de discussion et de démontage des arguments.
Est-ce que vous seriez allé dans un meeting de Dieudonné ?
Oui. Si j'avais été invité, oui. Mm-hmm. Si j'avais été invité, oui. J'y serais allé pour parler d'antisémitisme. Mm-hmm. J'y serais allé pour parler, je sais pas, des réflexions sur la question juive. Ou par exemple, j'aurais été heureux de pouvoir dire aux gens qui aiment Dieudonné, de montrer aux gens qui aiment Dieudonné toute la différence qu'il y a, par exemple, entre Desproges et Dieudonné. Pourquoi Desproges peut dire juif dans ses spectacles, alors que Dieudonné hésite à le dire, justement? Parce que Desproges est dans l'autodérision, alors que Dieudonné, lui, est sérieux. Il est dans une logique programmatique. Et c'est, par exemple, la raison pour laquelle j'aurais accepté d'y aller. La perspective d'avoir la liberté qui m'était donnée samedi dernier à la convention de la droite de parler pendant 20 minutes sans être interrompu, de pouvoir dire quelque chose que j'avais envie de dire et qu'en général je disais à distance, me semble inappréciable, inestimable.
Est-ce que vous étiez le mieux placé pour le faire ?
Je ne sais pas. Vous savez, il est toujours aisé. D'ailleurs, c'est un vieux réflexe marxiste dévoyé. Marx a appris aux gens que nos opinions n'étaient jamais pures ou vierges et que par conséquent, c'était toujours un rapport de force qui produisait ce qu'on pensait. Le problème, c'est qu'on a utilisé cet outil marxien, on l'a dévoyé pour faire désormais un procès d'intention systématique à celui qui n'est pas d'accord avec vous. Donc effectivement, moi, comme je coche toutes les cases dans mon CV de l'identité détestable aux yeux des gens étaient là, ils auraient pu s'abriter derrière ça. Ils ne l'ont pas fait. Je n'ai eu droit qu'à des critiques, quelques insultes qui pesaient pas lourd, mais quelques critiques et en aucun cas, je dois dire, un procès d'intention.
Alexandre Devecchio, vous avez publié le texte de l'intervention de Raphaël Enthoven dans le Figaro.
Tout à fait.
Par ailleurs, vous êtes au sein du Figaro, vous représentez l'aile, quand même, c'est toujours le cas, je pense, l'aile, disons, pas assez pro-Zemmour.
Moi, disons que j'ai des points d'accord et de désaccord avec Zemmour. D'abord, je pense qu'il a le droit de s'exprimer. Moi, j'ai trouvé, je dois le dire, le discours qu'il a fait à la convention de la droite excessif et outrancier. J'aurais pas pris les choses par le même angle que lui. Par contre, le fait de vouloir le bâillonner, que le parquet déclenche une enquête, là, je suis absolument pour la liberté d'expression tout court et pour la liberté d'expression d'Éric Zemmour.
Ah, mais c'est pas la question que je vous posais. C'est-à-dire que
mais j'ai des points d'accord et de désaccord, voilà. Mais je ne suis pas non plus. Zemmour n'est pas un gourou et je ne suis pas son élève, mais j'ai de nombreux points d'accord avec lui sur la mondialisation, sur l'immigration, sur l'islam, etc.
La personnalité de Zemmour est intéressante parce qu'elle croise deux systèmes. Celui de l'identité nationale, celui de la préférence nationale, qui est un refrain, une ancienne de l'extrême droite depuis longtemps. Mais aussi, et Zemmour a de la culture pour ça, et il en a le souhait, une ambition populiste, ouvertement populiste, c'est-à-dire aussi transpartisane, qui essaie de construire un nouveau clivage. Et c'est intéressant de voir que Zemmour est à la fois identifié au discours le plus nationaliste et le plus, je crois, étroitement nationaliste, en tout cas à mon sens, et l'ambition, alors, en un sens novatrice, en tout cas nouvelle, de créer un mouvement qui dépasse les appartenances partisanes pour se retrouver sur la question du peuple. Et il y a ça chez Zemmour. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est important de lui donner la parole. Lui donner la parole tous les jours, c'est fou. Retransmettre en direct son discours, ça me semble excessif, d'autant que son discours était vraiment mauvais à mon avis.
Oui.
Mauvais à tous les sens du terme, il était nul et mauvais, mais lui donner la parole tous les jours, c'est fou, mais le bâillonner, le priver de parole, ça, ce serait d'accord. aussi fou.
Voilà. Alors, on va pas parler de Zemmour dans cette émission, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plus précisément cette tentative de dépasser les clivages. Vous commencez par là dans votre intervention, Raphaël Enthoven, et vous dites la tentative de dépasser les clivages, donc d'OPA sur la droite classique, ça peut marcher. Ce qui ne marchera pas, en revanche, c'est la tentation d'arriver au pouvoir et de construire une alternative au progressisme. Et vous développez trois types d'arguments idéologiques, stratégique et métaphysique. Sur le premier volet idéologique, je crois que vous êtes à peu près d'accord.
Oui, on est d'accord.
Vous dites, on l'a vérifié d'ailleurs plusieurs fois, on en a parlé.
Et je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Dans votre livre, Alexandre Devecchio, ça ressort aussi. Et c'est l'idée que depuis la chute du mur, les démocraties occidentales sont passées des politiques droite-gauche aux politiques libérales contre souverainistes, mondialistes contre patriotes. Ça, tout le monde, je crois, a fait le même, constat.
On partage effectivement ce constat, mais c'est pour ça que Raphaël Enthoven l'a précisé, c'était une convention pas populiste, c'était une convention de la droite, et pour le coup, si Éric Zemmour prône plutôt un dépassement des clivages, Marion Le Pen prône une union des droites. Donc il y a un débat, je dirais, en interne de cette convention de la droite.
Ces considérations sur l'illusoire résurrection du clivage droite-gauche en 2019, ces considérations-là, je ne les aurais pas tenues si j'avais été invité à une convention du Front National ou du Rassemblement National, puisque l'analyse, pour le coup, de Marine Le Pen, c'est à peu près celle-là. La conformation du paysage politique au paysage idéologique est intéressante. Les partis politiques ont mis, en tout cas pour la moitié d'entre eux, pour le côté libéral d'entre eux, ont mis 25 ans à se conformer à ce bouleversement idéologique qui, lui, avait déjà infusé dans la population depuis longtemps.
Vous parlez de 2005, mais depuis
92.
On est d'accord sur ce point, et on observe que c'est une des thèses du livre, que c'est la même chose partout en Europe, en Grande-Bretagne et en Occident, en Grande-Bretagne avec le Brexit, en Amérique avec Trump, etc.
Oui, absolument. Alors, ce que dit Raphaël Enthoven, c'est que, en s'appelant la droite, la convention de la droite, le mouvement se tire une balle dans le pied. Comment est-ce qu'on peut se dire de droite et en même temps revendiquer le dépassement des clivages?
Oui, moi je pense que c'est plutôt une erreur stratégique. Je pense que là où on a le vrai clivage, c'est entre ceux qui défendent un monde plus ouvert, qui sont plutôt européens, qui sont à l'aise dans la mondialisation, et en face ceux qui sont pour davantage de protection dans tous les domaines, aussi bien économique que culturel. Il est là le vrai clivage, et à l'intérieur de ces gens qui sont en quête de protection, il y avait des des gens qui appartenaient, qui se reconnaissaient plutôt avant dans la gauche et d'autres qui se reconnaissaient plutôt dans la droite.
Et ça, c'est une découverte qu'on avait faite dès 92 et en particulier en 2005, où on observait une alliance objective entre le souci de préserver les acquis sociaux et le sentiment que ça ne pouvait se faire qu'à l'intérieur des frontières. Et, or, en vérité, ce clivage-là, il est apparu, je crois que j'ai repéré sa première apparition historique dans la littérature, c'est dans Germinal. Quand les mineurs font grève, à un moment, les patrons décident de les remplacer par des Borins, par les Belges. Et le Maheu, qui est la figure de la lutte ouvrière, qui est le héros, enfin c'est le Depardieu de l'histoire, le Maheu voit arriver les Borins et dit « c'est quand même pas ces salauds d'étrangers, de Belges qui vont nous piquer notre travail ». Et soudain, on avait une fusion des préoccupations. On avait la préoccupation évidemment des droits des mineurs, et puis le sentiment qu'on allait se faire voler son travail par l'étranger plus compétitif.
Mais ce clivage est devenu prégnant, je pense, aujourd'hui à cause du phénomène de la globalisation qui a tout bouleversé, et notamment aussi du phénomène de la paupérisation des classes moyennes qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, ça c'est de l'ordre du constat, parmi les grands perdants de ce phénomène-là, aussi bien sur le terrain économique que sur, je dirais, le terrain culturel, où elles ont l'impression, ou plutôt elles voient leur mode de vie disparaître parce qu'elles n'ont pas les moyens de la frontière invisible. Donc je pense que la vraie naissance du clivage, c'est le processus de mondialisation qui est sans doute irrémédiable, mais qui peut être malgré tout, à mon avis, amendé, réguler, etc.
Mais pour rester une seconde sur l'aspect historique qui est intéressant, parce qu'effectivement, la fin du 19e siècle, on a ces préoccupations-là qui naissent, et c'est ce que Drummond et puis ensuite Maurras vont savoir...
C'est l'Europe qui est en train d'apparaître.
Exactement. Ils vont savoir s'emparer de ces préoccupations et les mêler, surtout Maurras, aux préoccupations liées à l'héritage des Lumières et au courant des contre-lumières. C'est ça qui va faire le grand succès de Maurras, en fin de compte. C'est ce mélange
de peur sociale entre l'enracinement et le déracinement qui était apparu pour le coup à la fin du 18e.
Voilà. Pour finir là-dessus, on peut se demander si le clivage gauche-droite tel qu'on l'a connu, nous, dans nos générations, n'est pas en fait une histoire très brève, le produit de la guerre froide et guerre plus en fait. Peut-être à partir des années 30.
Je ne sais pas si c'est le produit de la guerre froide. Il me semble en tout cas, et je serais vraiment curieux d'entendre Alexandre là-dessus, il me semble en tout cas qu'il n'a pas survécu à la chute du mur et que comme s'il y avait une sorte de conformation implicite avec des nuances et des variantes selon les cultures de chaque pays, les traditions ou des hommes exceptionnels qui seraient apparus ici ou là et qui auraient bouleversé la donne. Mais j'ai le sentiment d'une conformation implicite des régimes démocratiques à l'ordre du monde. Et effectivement, pendant la guerre froide, la question était quand même droite ou gauche, égalité ou liberté.
L'effondrement du mur de Berlin, mon livre commence par là.
Et on revient aujourd'hui à des questions telles qu'elles se posaient, on a l'impression.
C'est là
avant.
Où je suis pas d'accord. Alors, je pense que l'histoire je pense qu'elles sont neuves précisément, puisque l'ouverture du chute du mur de Berlin a provoqué un bouleversement immense. D'ailleurs, à l'époque, on pensait, les intellectuels de l'époque, je cite Fukuyama qui est l'exemple le plus emblématique, que c'était le début d'une nouvelle ère, que la démocratie libérale allait triompher partout et que finalement, on n'aurait peut-être même plus besoin de la politique, la technocratie et le marché suffiraient. Et moi, je crois qu'on est en train de revenir de cette illusion-là. Ce qu'on dit, c'est les peuples qui ont adhéré d'abord à ça, parce qu'on leur a dit, vous allez avoir plus de prospérité, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et là, ils constatent dans les faits que ça les fragilise. Et donc, ils se révoltent contre ce système-là. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à Maurras, etc., même s'il peut y avoir des idéologues maurassiens qui se greffent là-dessus, mais c'est vraiment un mouvement qui vient de la base, des peuples, des classes moyennes et populaires, qui tout simplement, moment de l'addition de la mondialisation, se disent, on n'en a pas pour notre argent, on a été affaibli par ça. Peut-être que les Chinois ont profité, les Brésiliens en ont profité, que sais-je, mais les peuples occidentaux ont le sentiment d'être perdants, d'avoir vu leur niveau de vie baisser et leur mode de vie, je le dis encore, bouleversé.
Alors, il y a plusieurs problèmes dans ce que vous dites. Le premier concerne la définition de ce qu'on entend par peuple. Dans votre livre, vous donnez trois définitions possibles du peuple, démos, l'ethnos et la plèbe. L'ethnos, c'est la citoyenneté civique. L'ethnos, c'est l'appartenance ethnico-culturelle, dites-vous.
Plutôt culturelle.
La
plèbe, c'est la masse.
Et la plèbe,
c'est les classes populaires.
C'est les classes populaires. C'est une définition qu'on trouve déjà, je crois, chez Alain de Benoît, si mes souvenirs sont bons.
Mais je ne sais pas.
Ce qui est frappant dans votre livre, c'est que vous ne choisissez pas, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de définition.
Dans mon livre, je dis ce que sont les populistes, et je dis leur grande force, c'est de s'adresser au peuple. Et je pense que leur grande force, c'est de s'adresser à ces trois définitions du peuple. La communauté civique, parce que j'en ai pas parlé, il y a un sentiment de dépossession démocratique, puisqu'on est passé à l'échelle mondiale, il y a des organisations supranationales, un pouvoir des juges qu'il n'y avait pas auparavant. Donc les gens ont l'impression de plus peser sur leur destin. Et ça, les populistes l'ont très bien compris. Sur l'ethnos, il y a le multiculturalisme qui change le paysage culturel. Et j'essaye de faire vite. Et sur la plebs, effectivement, les classes moyennes se sont appauvries. Et donc, les populistes l'ont bien vu et tentent de s'adresser à cette
électorat-là. Est-ce que ce n'est pas une façon quand même un peu savante de gérer la confusion? Parce que finalement, c'est trois choses en même temps, rien de précis.
Je ne sais pas si c'est savant, mais en fait, la démocratie, c'est quand même le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Article 2 de la Constitution. Donc, je sais que dans les médias, à chaque fois qu'on dit peuple, on dit « Ah, mais définissez, il y a plusieurs peuples. » J'ai essayé de donner trois définitions précises du peuple.
Ce qui est vrai, c'est qu'on a vu apparaître, même s'ils existaient déjà avant, mais beaucoup en 2017, justement, parce que c'est la date de cette mutation officielle de paradigme, à mon avis, mais on a vu beaucoup apparaître de candidats du peuple. Et ce qui était intéressant, c'était que le peuple en question, dont ils étaient le candidat, n'avait pas le même sens, selon le candidat dont on parlait. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, en un sens Emmanuel Macron d'ailleurs, chacun se présentait comme le candidat du peuple, mais le mot, le peuple recouvrait une réalité différente. À chaque fois, c'était un rapport métonymique au peuple, c'était pas le peuple tout entier, c'était la France des gens qui se lèvent tôt, c'était la France des laissés pour compte de la mondialisation, c'était la France de la gauche déçue, c'était à chaque fois un peuple différent. Et ce geste-là, il est vieux comme le monde. Il a été théorisé par Marx au 19e siècle quand il a dit que le prolétariat, par l'universalité de ses souffrances, était fondé à revendiquer le titre d'humanité tout entière. Donc il y avait ce premier geste d'annexion de la totalité par la masse. Et ce mouvement-là donne à celui qui se présente comme le candidat du peuple, en réalité, fait de lui le représentant de commerce des gens qui pensent comme lui. Ce qu'il a déguisé commodément en candidat du peuple. Et c'est là qu'on est dans le populisme. C'est-à-dire que le populisme, c'est pas simplement se faire l'écho des préoccupations légitimes des gens qu'on prétend représenter, c'est aussi leur donner le sentiment que leur victoire serait la victoire du peuple tout entier. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une arnaque. Le populisme, à mon sens, est un, si j'ose dire, pardon pour cette métaphore, mais un viol du peuple par lui-même, ou par une partie de lui-même. C'est-à-dire une façon, par une partie du peuple, de s'approprier la totalité du peuple et de légiférer en son nom. Et comment s'y opposer, puisque c'est le peuple pour le peuple et par le peuple. Sauf que on joue sur l'essence de peuple. C'est pour ça que Marc avait raison d'insister sur ces nuances, parce que il faut pas jouer sur l'essence de peuple. On peut dire à la fois, si dans la même phrase on dit peuple en parlant de la masse et en parlant du tout, la confusion s'instaure immédiatement.
Mais le problème se posait déjà au moment de la Révolution française, où tout le monde n'était pas d'accord sur la définition du peuple. Il s'est aussi posé en Algérie pendant la guerre civile, la dernière, celle de 90, où les militants du FIS ont prétendu parler au nom du peuple avec des accents qui ressemblent beaucoup aux populistes occidentaux.
À cette nuance près qu'ils avaient été majoritaires dans les urnes.
Tout à fait. Tout à fait,
ce qui était pas...
différent, au prix d'un certain nombre de
absolument. Choses. Mais en 91, c'était 91, je crois, ils sont arrivés majoritaires à la fin au premier tour. En tout
mais
cas.
On a des déclarations de Ali Belhadj, par exemple, qui dit il s'agit d'établir une société authentique pour sauver le peuple algérien, l'humanité et la civilisation. Changer islamiste par
les chrétien. Les conséquences ont été sanglantes. Je pense que parmi les populistes qui sont arrivés au pouvoir en Europe ou en Occident, ou qui seraient amenés à pouvoir arriver au pouvoir, je ne vois pas très honnêtement des conséquences aussi sanglantes. Donc il ne faut pas jouer à se faire peur non plus. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les différents peuples, la réalité sociologique d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une fracture très nette malgré tout entre au moins deux peuples. Au moins deux peuples. Ouais. Et de plus en plus, parce que je pense d'ailleurs que le vrai risque, et je mets en garde à la conclusion de mon livre, c'est quand même la balkanisation de la société, c'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation. Mais aujourd'hui, il y a une coupure très nette entre des classes populaires qui, on l'a dit, estiment être les perdantes et d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise dans ce système mondialisé. Moi, je prône une réconciliation entre les deux, mais il y a quand même le sentiment chez cette majorité populaire, parce qu'en plus, elle est sans doute majoritaire en termes de nombre, de ne pas être considérée, de voir ses préoccupations et ses angoisses légitimes pas considérées. Et en plus, il y a une évolution de la démocratie très claire ces dernières années, liée justement à la mondialisation, et c'est logique, liée à la construction européenne, qui a fait mettre dans les démocraties libérales le curseur davantage sur le libéralisme que sur la démocratie. Je m'explique, la démocratie libérale, c'est deux choses, je suis attaché aux deux choses, c'est les libertés individuelles, les droits fondamentaux d'un côté, le droit, l'état de droit, et de l'autre, la souveraineté populaire. Et moi, je pense que ces dernières années, on a été très loin dans le droit, notamment le droit des minorités, dans les cours internationales chargées de vérifier que l'état de droit était respecté, etc., 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 au détriment de la souveraineté populaire qui s'est souvent senti trahie. L'exemple le plus clair, le plus net, et je pense que les Gilets jaunes en sont une conséquence lointaine, c'est le non au référendum européen de 2005, dont les élites politiques n'ont pas tenu compte. Voilà pour la précision sur les différents peuples et les clivages qu'on observe aujourd'hui.
Enfin, Raphaël Enthoven.
Oui, c'est sur la question du « eux » et du « nous », en somme. Hein. Ouais. L'idée qu'il y aurait un « eux » et un « nous », quel que soit le « eux » ou le « nous », d'ailleurs, cette ambition de voir une partition. C'est rarement un diagnostic, c'est en général une construction. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'opposer deux camps, ce qui permet commodément, d'ailleurs, de désigner l'un des camps comme le dépositaire indu de la vérité et de l'autre côté, le dépositaire légitime de la colère, ou inversement. Bref, je trouve ça trop simple. Surtout, c'est indémontrable, c'est infalsifiable, et ça permet de dire à celui à qui on n'est pas d'accord, mais toi, tu fais partie du « e », et alors que moi, je suis dans le « nous », et donc ma parole, peut-être contradictoire ou fausse, elle est légitime, et la tienne ne l'est pas. C'est un outil pour délégitimer une autre parole.
Deux légitimités qui s'opposaient aujourd'hui, et qu'il fallait tenir compte quand même de ceux qui avaient voté non. Enfin, c'est une réalité que Brexit a été voté, que Trump a été élu, quoi qu'on en dise.
C'est intéressant cette histoire de Brexit, parce que imaginons d'un point de vue strictement démocratique, d'un point de vue strictement démocratique, juste cette question. C'est la démocratie. Le Brexit a gagné. Il est normal qu'il soit appliqué, etc. Si demain matin une nouvelle majorité arrive au Royaume-Uni et décide de revoter, elle a été élue, son cahier des charges au moment des élections est de revoter, est-ce que vous y seriez favorable, hein, ou est-ce que vous y verriez un déni de démocratie?
Non, mais moi je souhaite ardemment qu'il y ait des élections en Grande-Bretagne. D'ailleurs, on voit bien que tous les populistes là actuellement sont ceux qui sont favorables aux élections. Salvini voulait une élection en Italie, Johnson veut une élection en Grande-Bretagne, etc., etc. On a vu que Kurz a été victime d'une motion de censure et a gagné les élections dans la foulée, donc oui. Il se trouve que le non a quand même gagné depuis 3 ans et qu'il serait normal peut-être que cette décision soit appliquée. Je pense qu'elle ne trahit pas les valeurs fondamentales de la démocratie. Je pense qu'effectivement, il y a des droits fondamentaux, il ne faut pas revenir en arrière, etc. Mais là, le Brexit, voilà, c'est une décision technique. Peut-être faudra-t-il la mettre en œuvre.
Et sur la question de la majorité, Alexandre Devecchio, il y a quand même des choses dans votre livre qui sont... On a l'impression quand même qu'il y a un certain nombre de contradictions. Parce que vous parlez par exemple de Mussolini. Vous expliquez que les chemises noires, la marche sur Rome... Les gens étaient minoritaires, il y a quelque chose comme 30 000. Et que c'est finalement le roi, pressé de toutes parts, qui
pour
a réclamé...
Pour le coup, Mussolini a perdu largement les élections plusieurs fois.
Mais 30 000 partisans de Mussolini, 60, je ne compare pas les mouvements idéologiquement, mais 60 000 gilets jaunes ou même 100 000 gilets jaunes, on parle de minorité dans tous les cas. On parle pas, je parle pas de mouvement.
La différence,
de masse.
C'est que les gilets jaunes étaient soutenus au départ. D'ailleurs, je crois que le mouvement a beaucoup évolué, comme maintenant on peut plus parler de gilets jaunes. C'est un mouvement noyauté par l'extrême gauche. Effectivement, c'est un mouvement extrêmement minoritaire. Je pense essentiellement l'extrême gauche, mais ne débattons pas.
Là-dessus.
Mais c'était un mouvement qui était quand même soutenu par 80% de la population au départ. Après, les sondages ne font pas les élections, mais je pense que vouloir balayer ce mouvement en disant il ne signifie rien, ce serait un tort. Il signifie beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra en tenir compte justement à l'avenir. Sinon, on va avoir des mouvements de plus en plus violents de ce type. Donc, mon livre est en fait une mise en garde. S'adresse plus à la limite aux élites entre guillemets ou aux ceux qui sont les tenants du statu quo, en leur disant attention, ça va vous péter à la figure. Essayez de vous préoccuper de la colère et du cri de révolte légitime de ceux d'en face. Et c'est d'ailleurs le seul désaccord. J'ai publié la tribune de Raphaël Enthoven parce que je trouvais qu'il était courageux et que je suis un démocrate et je pense que c'est bien d'échanger sur les idées. Mais j'avais un désaccord fondamental avec vous sur deux choses. Vous dites la société est indécrottablement libérale.
Incurablement
libérale. Je suis pas sûr. Je savais pas que vous étiez l'héritier de Margaret Thatcher et qu'il n'y avait pas d'alternative.
Je vais répondre là-dessus.
Et ensuite, j'ai trouvé votre ton comme si vous les traitiez comme des débris de l'histoire. Bah non, il y a beaucoup de gens qui sont en colère, qui votent pour certains partis. Je suis pas sûr que la stratégie la meilleure, ce serait de les traiter de débris de l'histoire qui ont automatiquement perdu. Je pense au contraire qu'il faut arriver à une réconciliation et que là, il y avait une pointe de mépris dont vous êtes n'étaient pas coutumiers, qui à mon avis était extrêmement contre-productif et qui m'a un peu heurté.
Oui, c'est-à-dire que vous faites à Fellenthoven la critique qui a été faite à Hillary Clinton, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à eux comme à des déplorables.
Alors, j'ai pas du tout employé ce mot.
Non,
moi,
j'ai pas non plus,
je veux le dire quand même, employé le mot de débris à aucun moment. Bon. Et quand mon propos,
c'était la question du libéralisme.
Alors d'abord, le libéralisme dont je parlais, c'était pas celui de Thatcher, qui sur les mœurs était plus conservatrice que moi. Je parlais en l'occurrence de ce qu'on appelle des libertés supplémentaires ou des droits acquis sociétaux, si vous voulez, la PMA, la GPA, si ça arrive, l'IVG ou des choses comme ça, où j'évoquais la peine de mort. En fait, mon propos était de dire que nous n'avons jamais vu en démocratie, à moins d'un changement de régime, une liberté accordée, puis ensuite retirée. On n'a jamais vu un État accorder l'IVG, par exemple, une démocratie accorder l'IVG, puis ensuite, démocratiquement, à l'occasion d'une nouvelle élection, d'une alternance, revenir là-dessus. Je me souviens de Laurent Wauquiez en 2013, chez Ruquier, j'étais en face de lui à l'époque, par hasard, disant que quand il reviendrait au pouvoir, il abolirait, il supprimerait, il abrogerait le mariage pour tous. Or, c'est le même homme qui, deux, trois ans plus tard, a dit « on reviendra pas dessus, c'est pas la peine », etc., en faisant comme s'il avait toujours pensé ça. Au-delà de ces palinodies de politiciens, en vérité, ce qui se passe là, ce qui est très important, c'est que il y a aucune téléologie, il y a aucun sens de l'histoire dans mon idée. Il n'y a pas l'idée que les libertés sont irréversibles, il y a l'idée que l'obtention d'une liberté en démocratie est un palier, en deçà duquel on peut pas revenir.
Mais c'est pragmatique, c'est avéré
par l'histoire. Je ne connais aucun exemple historique d'une démocratie qui ait accordé un droit de cette nature et qui soit revenu dessus ensuite. Attends, je ne parle pas de l'âge de la retraite ou de choses qui rentrent dans des économies.
On parle des valeurs.
Je parle ici des valeurs. Je ne les célèbre pas, ces valeurs. Je dis juste qu'elles sont irréversibles quand elles sont accordées.
Voilà, ça va dans le sens des sondages. C'est-à-dire que le mariage pour tous... l'avortement, peine de mort, la majorité,
c'est occupation principale des populistes d'ailleurs, j'en parle très peu dans le livre.
C'est un des arguments que j'avançais pour dire que prendre ce chemin-là ou proposer ce chemin-là politiquement à un corps électoral, c'est le contraindre à la minorité.
C'est ça. C'est-à-dire que dans le désir de s'accrocher à un mode de vie qui n'est plus celui de la société, il y a une défaite annoncée. C'est ça l'argument central de Raphaël.
Je ne vois pas de victoire possible dans un cahier des charges de cette nature. Juste une chose, pardon Alexandre, sur la question de la réconciliation. Moi, je pars du principe, et je trouve que la façon que nous avons de discuter en témoigne, je pars du principe que la réconciliation, c'est la dispute. Il n'y a pas de réconciliation, dispute au sens noble. Il n'y a pas de réconciliation sans dispute. C'est-à-dire que les gens à qui j'avais affaire étaient, avant que je les voie, mes ennemis, et d'une certaine manière, au terme de l'intervention, ils étaient devenus mes adversaires. On a fait un progrès. Dans le sens de ce que j'appellerais une forme de réconciliation. Non pas au sens où chacun, c'est pas l'unanimisme, la réconciliation, c'est pas la validation des thèses de l'adversaire. C'est au contraire, avoir suffisamment de respect pour elles pour les frapper de la bonne manière. Ou pour les attaquer de la bonne manière. Je vois pas de réconciliation hors de cette relation.
On est d'accord, c'est la dispute démocratique qui doit être tranchée par des élections, mais vous aviez... Vous concluiez sur le fait que, d'une certaine manière, vous étiez même pas inquiet parce qu'ils étaient appelés à disparaître.
C'est ça qui est... ils ont l'avenir politique d'une force d'appoint.
Pour ce qui est de l'union des droites, et là, je peux partager l'analyse stratégique.
Mais alors, est-ce qu'ils n'ont pas aussi un avenir politique de nuisance? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arriver au pouvoir, mais la colère qui les anime est susceptible de bloquer un certain nombre de choses.
En tout cas, alors, soit de bloquer, soit de canaliser, parce qu'on a parlé des gilets jaunes. Les gilets jaunes qui témoignaient de beaucoup de choses ont aussi témoigné de la faiblesse du politique en France. Il n'y avait aucun parti politique pour préempter cette colère. Tout le monde a essayé de courir après, ce qui était ridicule. Les insoumis ont vendu tout ce qu'ils avaient pour essayer de gratter quelques voix d'une matière qui, en elle-même, ne pouvait pas agréger à leur profit. Le Front National ou le Rassemblement National, pareil. Il n'y avait pas un mouvement politique. Wauquiez a fait semblant d'en porter un tout en disant qu'il ne l'avait pas fait. Enfin bon, il n'y avait pas un parti politique, il n'y avait pas un discours, il n'y avait pas une figure suffisamment charismatique pour préempter cette colère, la structurer, la construire et lui donner un débouché politique. Ouais. Et ça, c'est un problème démocratique pour la majorité comme pour l'opposition. L'absence d'opposition expose le pouvoir en place à des mouvements anarchiques et la République à sa remise en cause à la moindre critique.
On est bien d'accord. Moi, je suis très inquiet d'un nouveau second tour qui semble être souhaité par tout le monde entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je crois qu'une des raisons des Gilets jaunes, même si c'est elle qui a quand même mieux préempter le mouvement, je pense, au final.
Jusqu'au moment où il y avait les final, soi-disant violences policières, où elle ne savait plus où se mettre.
Oui, oui, ben c'est pour ça que je dis que le mouvement a été quand même noyauté plutôt par l'extrême gauche que par l'extrême droite. Mais ce que je disais, oui, l'inquiétude, je pense que les Gilets jaunes sont sortis dans la rue, effectivement, parce que le Rassemblement national n'est pas l'alternative populiste crédible. S'il y avait un espoir politique du côté de ces gens-là, ils ne seraient pas sortis dans la rue.
Mais alors, il y a quand même un paradoxe intéressant, parce que la France a été un des pays où le discours, où la narration populiste contemporaine s'est vraiment structurée. C'est aussi celui où ce mouvement n'a pas trouvé de débouché politique réel, de crédible. Il est arrivé au pouvoir ailleurs, il est arrivé au pouvoir en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil quand même, en Italie avec Salvini. Et ce qu'on voit depuis que ces mouvements sont au pouvoir, c'est quand même que ça ne se passe pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça plafonne. Salvini n'est plus au pouvoir. Boris Johnson est quand même dans une situation, l'Angleterre est quand même dans une situation extrêmement chaotique. Le Brésil, on n'en parle même pas.
Ça n'a pas de nom.
C'est un peu facile, je trouve. Et les États-Unis.
J'aurais dit ce que je pensais de Bolsonaro, c'est-à-dire plutôt du mal.
Oui. Mais c'est, oui, mais en même temps, c'était assez simple. C'est assez facile de penser du mal, du pire, d'un courant qui est.
Je pense qu'il y a d'un côté vraiment les classes moyennes occidentales, et le Brésil est un pays qui n'a jamais eu de classe moyenne. Donc on n'est pas du tout dans le même paradis, qu'il y a des problèmes de corruption endémique particulier, de violence, la question, une société multiculturelle depuis le début. C'est un cas spécifique.
La question de l'identité et de l'identité culturelle est une question qui est revendiquée autant par Bolsonaro que par.
Le fait qu'il ne s'ancre pas dans le pouvoir, à mon avis, tient à deux phénomènes, très rapidement dit. Le premier, ce sont les réseaux sociaux. C'est qu'en somme, tout pouvoir aujourd'hui s'assoit sur le sol meuble d'une opinion en permanence mobile, versatile, etc. Le mur de Berlin a l'air des réseaux sociaux, ça n'aurait pas tenu une semaine. Donc ce qui est intéressant, c'est que même les dictatures, même les régimes autoritaires aujourd'hui sont exposés à ce ferment déstabilisateur qui pourrit les démocraties aussi, mais pour d'autres raisons. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que le populisme avère une loi de la politique depuis que les politiques se font élire, qui est que les qualités pour conquérir le pouvoir, dont Salvini disposait, dont d'autres ont pu disposer, Chirac en est, à mon avis, le meilleur exemple, ne sont jamais les qualités qui font les bons gouvernants.
Oui, mais alors, est-ce que c'est pas...
Je ne souscris pas à l'analyse qu'ils ne sont pas solides au pouvoir.
Je pourrais aller dans le sens de Raphaël Hunter une seconde, et après vous répondez. Est-ce qu'il n'y a pas en plus... est-ce que ce n'est pas particulièrement flagrant avec les mouvements populistes où les leaders sont systématiquement des transgressifs? C'est-à-dire qu'ils arrivent au pouvoir en développant leur propre égo transgressif, c'est pas possible de diriger un pays en jouant la transgression en permanence.
Sans doute. Il y a du vrai dans ce que dit Raphaël Enthoven. De toute manière, on est dans une démocratie liquide, et même Macron, d'une certaine manière, en est un exemple. Mais juste, je serais pas aussi définitif sur le constat. D'abord, parce que Salvini n'a pas, s'il y avait des élections demain, sauf à exclure refuser le principe des élections, il n'est pas dit qu'ils ne reviennent pas au pouvoir. Johnson, rien n'est réglé. C'est pareil, s'il y avait des élections, il y a de fortes chances qu'il gagne. C'est bien pour ça que l'opposition refuse des élections. Donald Trump, il y a beau avoir une procédure d'impeachment, je pense que ça montre la faiblesse du Parti démocrate. Ils sont à un an des élections, ils déclenchent une procédure d'impeachment, c'est qu'ils sont pas sûrs du tout de gagner, et il a quand même un socle solide, des résultats économiques beaucoup moins apocalyptiques qu'on l'avait dit.
Ils doivent donner des gages à la gauche de leur parti pour essayer d'avoir un candidat.
Orban s'est ancré dans la durée avec 4 mandats, donc la messe n'est pas dite. Moi, je suis pas sûr du tout que le monde populiste va être le monde de demain. Par contre, je suis sûr que l'ordre global est vacillant. Et alors là, je vais être un peu pédant, je vais citer Gramsci, mais on est vraiment dans ce moment où un monde est en train de disparaître et un autre est en train de naître.
Oui, mais à cette nuance près quand même que nous disposons dans la littérature et dans la philosophie notamment et dans l'histoire des idées de livres qui, par exemple, Le Prince de Machiavel, permettent depuis le 15e siècle de comprendre des phénomènes dits émergents aujourd'hui. Je prends juste un exemple. C'est pas pour faire le malin, c'est pour que nos auditeurs savants s'y réfèrent. C'est le chapitre 9 du Prince. Voilà. Dans le chapitre 9 du Prince, Machiavel, qui est donc le conseiller du Prince, recommande au Prince, dit-il, de se débarrasser des puissants. les puissants à l'époque, c'était ceux qui étaient juste au-dessous du roi et qui l'empêchaient d'agir d'une certaine manière ou qui venaient filtrer son action. Une fronde avant la fronde. Il fallait se débarrasser des puissants. Or, ils occupaient la place qu'occupent aujourd'hui les organes de presse que pourfend Donald Trump ou bien les partis politiques ou les associations ou les syndicats qu'on veut ubériser. Et Machiavel recommandait au prince d'enjamber, d'ubériser, alors il n'employait pas le mot, d'ubériser les puissants, en expliquant qu'il y aurait deux vertus à cela. La première, c'est qu'il donnerait au peuple le sentiment d'être plus près de lui. Et la seconde, c'est qu'il aurait en réalité les coups des franches. Et que, tout en se donnant l'air d'une plus grande proximité, il aurait le pouvoir absolu. Et cette problématique-là, c'est-à-dire l'idée en somme que le candidat du peuple, c'est vraiment l'émanation d'une volonté populaire, mais en réalité c'est une confiscation du pouvoir par celui qui prétend le rendre au peuple, cette idée-là... Elle date du 15e siècle. Enfin, Machiavel l'a formulé. Platon l'a décrivé dans La République.
Pour moi, le populisme est une forme de gaullo-bonapartisme bas de gamme, surtout en France.
Oui.
On est d'accord là-dessus. Et ce qui est amusant aussi, c'est que Emmanuel Macron, et je crois que ça a été son avantage sur les autres, a un style populiste, même s'il a une idéologie qui n'est pas du tout celle des populistes. Il n'est pas du tout nationaliste, il est pro-ouverture, etc. Il a été le premier à ubériser les corps intermédiaires. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il y a quand même un phénomène nouveau qui est le retour des peuples et des nations, le besoin de protection des peuples. Et je crois que balayer les choses comme ça en disant les populistes ont perdu, c'est un accident de l'histoire, ce serait dangereux. Regardez le Brexit, on l'a voté il y a 3 ans. Les médias nous ont dit non mais les Britanniques regrettent, etc. Regardez le résultat des élections européennes qui a donné le Brexit Party largement en tête et les autres partis traditionnels s'effondrant. Donc vraiment je mets en garde contre ça. Christophe Guillouis, quand je lui ai posé la question jusqu'à quand vont manifester les Gilets jaunes, il m'a répondu sous forme de boutade 100 ans. Et moi je crois que c'est vraiment un changement de paradigme et qu'on pourra pas balayer ce besoin de protection.
Si les Gilets jaunes...
Est-ce que c'est un besoin de protection ou un besoin d'identité?
Voilà, c'est ce que je vais vous dire.
Et les deux, protection culturelle et protection économique.
Si les gilets jaunes vont manifester pendant 100 ans...
Non mais les gilets jaunes, c'était un symbole.
Oui, mais c'est pas seulement un symbole, c'est un symptôme. Si les gilets jaunes manifestent pendant 100 ans, ou peuvent manifester pendant 100 ans, c'est parce que leur démarche est exclusivement négative. Ils sont dans le rejet d'un pouvoir en place, de toute tutelle, de toute représentation. Et cette position-là, le non est infini, disait Camus. On peut s'opposer à l'infini et par conséquent coaliser des gens très différents dans une opposition commune. Le problème des Gilets jaunes, c'est pas de s'opposer, c'est pas de se réunir tous les samedis, ça ils savent faire. Le problème des Gilets jaunes, c'est de former une liste aux européennes. Il n'y avait que Francis Lalanne pour le faire. C'est là qu'il n'y avait plus personne, je veux dire. Le problème des Gilets jaunes, c'est de dire oui à quelque chose, c'est pas de dire non.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, que ces mouvements se disent non au nom d'une identité qui ne savent affirmer que dans la négation. Il n'y a pas d'identité.
Je ne dis pas autre chose que ça, pour le
voilà, il n'y a pas d'identité positive. Même mais dans les mouvements au pouvoir, même lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils se définissent contre.
Peut-être beaucoup moins identitaristes que vous ne semblez le penser. Moi, je le redis. Il y a eu un phénomène d'ouverture, de bouleversement global qui est la mondialisation. Il ne s'agit pas de revenir dessus. Il s'agit de mettre des limites et des frontières à tout ça. Moi, je pense que c'est simplement ça que la grande majorité, à l'exception de quelques extrémistes, de ces gens-là, réclame. Ensuite, je me méfie quand même de l'idée de dire que il y a que des minorités. C'est un des dangers qui nous guette, et je suis très inquiet là-dessus. Je trouve que le livre de Fourquet est formidable, l'archipélisation française, mais il faudrait pas que ce soit un écran de fumée pour dire de toute manière, il n'y a plus de majorité possible, donc les 25% qui ont été aux commandes toutes ces dernières années continuent à être aux commandes. Il y a quand même un certain nombre de points où je crois qu'il y a un consensus. Sur l'immigration, je suis désolé, c'est pas politiquement correct de le dire, mais tous les sondages disent que entre 70 et 80% des Français, et sans doute si on faisait le sondage à l'échelle européenne, ce serait pareil, veulent que les flux migratoires soient mieux maîtrisés. Idem sur la question européenne. Alors les chiffres sont pas aussi, il y a pas une majorité aussi nette, mais tous les référendums récents ont montré que la construction européenne telle qu'elle était ne satisfaisait pas les peuples. Donc il y a beaucoup de points où il y a encore des majorités et c'est pour ça aussi que ces majorités s'exaspèrent parce qu'elles ont l'impression de ne pas être entendues et d'être méprisées.
Mais parce que sur la question de l'Europe, parce que tout simplement on ne voit que ce qui ne marche pas, on voit pas ce qui marche. Donc
Et aussi aussi parce que l'Europe est le bouc émissaire des chefs d'État depuis toujours. Les chefs d'État n'arrêtent pas de dire. Giscard lui-même avait reconnu, Giscard grand européen devant l'Éternel, avait reconnu lui-même avoir abusé de ce stratagème qui consistait à dire c'est pas moi, c'est Bruxelles. Alors que Bruxelles ne prenait que des décisions qui étaient validées par les États. Et vous savez, tout ce discours un peu démagogique, très drôle, que le bébé de chaud avait inventé à l'époque où on se moquait de la courbure des bananes, de la taille des gravillons, de toutes les premières dispositions qui étaient prises par la Commission européenne.
C'est aussi une réalité de l'Europe.
C'est une réalité administrative, mais le mensonge est de penser que ces choses-là nous sont imposées et qu'elles n'ont pas été d'abord validées par les États. Ce qui est vrai, c'est que les chefs d'État, en général, se servent commodément de Bruxelles pour dire « c'est pas de ma faute, c'est Bruxelles ». Là encore, Chirac, qui est vraiment pas le pire de tous, mais bon, c'est lui qui me vient à l'instant. Mais Chirac lui-même, quand il avait été candidat en 95, avait dit « si je suis élu, on baissera la TVA sur la restauration ». Puis après, il était arrivé, il avait dit « excusez-moi, c'est l'Europe qui en décide et en fait, ils veulent pas ».
Bien sûr.
Bon,
l'Europe
est aussi la victime des populistes en ce sens.
Voilà, exactement. Et je voudrais finir sur la question de l'immigration et sur la question de l'identité, parce que c'est là-dessus, Raphaël, que vous finissez votre intervention à la Convention de la droite. Vous le dites aussi, Alexandre Devecchio, on est probablement à l'orée de quelque chose de bien plus important que ce qu'on voit en termes de flux migratoires. Et ça, je vois pas comment on va revenir en arrière. Donc, est-ce que ces mouvements de crispation identitaire ne sont pas avoués soit à ne rien pouvoir gérer, parce qu'ils ne sont que dans la crispation, soit à la violence au bout du compte?
Je crois que, par exemple, l'un des ressorts de Salvini, s'il a été aussi populaire si vite, c'est qu'il a quand même obtenu des résultats en matière d'immigration. D'ailleurs, ses prédécesseurs avaient déjà commencé, ils sont assez hypocrites à enclencher la même politique, et on voit que même Macron est obligé d'y venir. Si vous tenez ce discours-là, malheureusement, vous validez la peur, vous validez le discours du grand remplacement. Si vous expliquez aux gens qu'il n'y a rien à faire, on est dans un bouleversement démographique, et en gros, bah les gens vont venir d'Afrique et ce sera comme ça, ils vont s'installer et on n'aura rien à dire, on pourra pas réguler ça.
Ah, c'est pas ce que je dis.
Là, vous faites le jeu, je dirais, de ceux qui expliquent qu'il va y avoir un grand remplacement. Donc, je crois en la politique. Donc, je crois qu'on peut trouver des solutions politiques à ces choses-là, avec les pays de départ notamment. Peut-être que ces pays-là peuvent aussi connaître un peu plus de prospérité, un peu plus de démocratie. Enfin, à un moment donné, il faut faire preuve de volontarisme là-dessus. Et je crois pas que c'est être populiste de dire voilà, on va prendre les choses en main et on va vous protéger sur cette question-là.
Non, ce qui est vrai, c'est que le désir d'identité. Moi, j'ai dit que la Convention de la droite, j'expliquais que la catégorie d'identité, métaphysiquement, n'avait aucun sens. L'implicite de mon propos, c'était Montaigne qui disait que nous ne sommes que passage, et David Hume qui disait que si on cherche le sujet, on ne le trouvera jamais séparément des qualités. Donc, il n'y a pas de sujet pur, il n'y a pas de sujet métaphysique, et à l'échelle d'une communauté aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, en un sens, on n'a pas dit grand-chose. Parce que dire que la catégorie d'identité n'a aucun sens, c'est comme dire que les races n'existent pas. Le racisme existe quand même. Et la pensée identitaire existe d'autant plus que la catégorie d'identité n'a aucun sens. C'est pas parce que l'identité est une fiction qu'il n'y a pas de désir identitaire. Et c'est vrai, et là où Alexandre a raison, c'est que le désir identitaire vient avec la peur, vient avec le sentiment que les frontières s'abolissent, qu'on n'est plus protégé, et qu'en cela, on n'est plus chez soi, à quoi s'ajoute le sentiment que tout se perd et que c'était sûrement mieux avant. Tout cela combiné produit un désir d'identité, mais dont le paradoxe est que par son émergence même, il avère la mondialisation. Un point tout simple, quand Orban a gagné, Marine Le Pen s'est réjouie de la victoire d'Orban, en expliquant que désormais les nationalistes ou les populistes, je ne sais plus comment elle disait, dans toute l'Europe pouvaient se réunir. Et elle faisait en cela, elle européanisait une opinion europhobe. Elle contribuait au développement de l'Europe en défendant un argumentaire qui allait contre l'Europe. Et la multiplication des identités est, à mon avis, un des éléments de la mondialisation elle-même.
Il y a la question de l'héritage quand même, parce que l'identité n'est pas forcément un gros mot. Vouloir transmettre des belles choses et les préserver, c'est dans la nature humaine. Alors bien sûr qu'il ne faut pas une identité essentialiste, mais un peu d'héritage, d'histoire, c'est ce qui nous lie.
On va finir là-dessus, oui. L'identité soit une fiction, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.
Mais pour moi, c'est Hannah Arendt, la maîtresse de toute éducation. Il n'y a pas d'avenir sans connaissance du passé. Donc si c'est ça qu'il faut dire, là on adhère pleinement.
On est pleinement d'accord, voilà.
I don't need your answered prayers or the change your lover wears. I don't need your rings of gold or the secrets that you hold. Lift me up, darling. Lift me up and I'll fall with you. Lift me up. Let your love lift me up.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.